Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur.
Longtemps parlé de cervelle d'oiseau ou de tête de linotte, mais ce n'est pas parce que le cerveau des oiseaux est très petit qu'ils n'ont rien dans le crâne. Nos amis à plumes n'ont pas évolué comme les mammifères et des études récentes montrent qu'ils peuvent mémoriser à long terme, reconnaître des visages et même utiliser des outils. Les oiseaux sont en fait dotés de grandes aptitudes cognitives. C'est ce que vont vous raconter deux ornithologues dans cette émission. Vous entendrez les belles histoires de Guylain Le Saffre, les oiseaux lui doivent beaucoup. Guylain Le Saffre est administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. À ses côtés, Maxime Zucca, directeur du pôle conservation de la nature à la LPO. Maxime Zucca est un spécialiste des migrations. Tous les deux murmurent à l'oreille des oiseaux. Ils font des comptages, baguent, organisent des recensements, essaient d'entraîner des bénévoles car les scientifiques ont besoin de données objectives pour mener leurs travaux.
Les aventuriers sur France Inter.
Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme. Depuis les dernières décennies, de très gros progrès ont été accomplis dans ce domaine et les chercheurs se mobilisent dans beaucoup de laboratoires à travers le monde pour essayer de comprendre mieux cette intelligence des oiseaux.
On a fait beaucoup de progrès depuis 50 ans, on a fait beaucoup de découvertes.
On a fait beaucoup de découvertes depuis ces dernières décennies, effectivement, à la fois dans un travail d'anatomie, c'est-à-dire de compréhension, même de physiologie, de fonctionnement du cerveau, mais on a aussi élaboré des expériences, surtout en laboratoire, plus que sur le terrain, qui visaient à essayer de pousser un petit peu plus loin les limites de cette compréhension de l'intelligence des oiseaux, qui n'était pas reconnue il y a encore 50 ans, c'est-à-dire que les fameuses expressions « tête de linotte » ou « cervelle de moineau » avaient toute leur force à cette époque-là.
Allez, une des dernières découvertes qui vous aurait marqué à propos de l'intelligence des oiseaux?
Eh bien, on considère que l'utilisation des outils représente chez les animaux une forme d'intelligence. Et tout récemment, puisque la publication date de février 2020, des chercheurs, deux Anglaises et un Islandais, ont donc publié un travail sur un macareux qui a été observé en train d'utiliser une petite tige de bois pour se lisser le plumage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un macareux a été observé au Pays de Galles et un autre macareux a été observé faisant la même chose, il a même été filmé par une caméra automatique, en Islande. Donc c'est quelque chose qui ouvre des champs absolument inexplorés.
C'est vrai qu'on dit que l'utilisation des outils par des animaux est une preuve d'intelligence. Chez les oiseaux, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Maxime Zucca, vous aussi, vous avez des exemples.
Il y a également des exemples qui remontent à loin, même si ça fait effectivement que quelques décennies que l'intelligence des oiseaux est perçue par les chercheurs. On a aussi des antiques, et notamment des Grecs, et ça remonte jusqu'à Ésope et dans ses fables, dans lesquelles il citait les corneilles, et il y a une fable d'Ésope qui s'appelle « La corneille et la cruche », dans laquelle il décrit une corneille assoiffée dans un milieu aride qui rencontre une cruche à moitié remplie d'eau qu'elle ne peut pas atteindre et elle est obligée de prendre des cailloux et de les jeter progressivement dans la cruche pour faire monter le niveau de l'eau jusqu'à pouvoir enfin boire. Et cette fable a été vérifiée en expérimentation, dans laboratoire, au cours des dernières années. Et effectivement, non seulement les oiseaux sont capables, les corneilles sont capables d'utiliser des pierres pour faire monter le niveau de l'eau, sont capables de choisir les plus grosses pour être plus efficaces et sont aussi capables de faire la distinction entre des éléments qui flottent et d'autres qui coulent, y compris sans voir le résultat. Donc c'est si on cache le fond de la cruche et qu'on ne voit pas que les éléments rejetés flottent ou coulent. Et d'ailleurs, la comparaison a été faite avec des enfants et la capacité de réussite du test est équivalente avec celle des enfants entre 5 et 8 ans pour les corneilles.
Alors, corneille, corbeau, on reste dans le domaine des corvidés. Le corbeau est capable de façonner un outil pour aller chercher des larves.
Oui, ce sont les corbeaux calédoniens. On s'est rendu compte que ces corbeaux calédoniens étaient capables d'arracher une partie de la feuille d'un arbre qu'on appelle le pandanus. Et cette feuille est denticulée, c'est-à-dire que sur le bord, il y a des sortes de petites épines. Et par conséquent, c'est un outil tout à fait pratique pour aller chercher des larves xylophages, c'est-à-dire des larves qui mangent le bois. Donc notre corbeau arrache le côté de la feuille, confectionne en quelque sorte un harpon et il va s'en servir pour aller forer les trous des larves qui vivent dans le bois. C'est quand même incroyable.
Racontez-nous encore comment les oiseaux qui s'appellent des indicateurs s'attaquent aux bougies à la cire d'abeille et utilisent un petit mammifère pour aller dans les ruches.
Oui, alors c'est-à-dire que les premiers missionnaires qui se sont installés, c'était des missionnaires portugais qui s'installaient en Afrique, avaient été surpris de voir que les bougies qu'ils disposaient sur l'autel, qui étaient donc en cire d'abeille, étaient régulièrement mangées, elles disparaissaient. Alors, ils ne savaient pas comment. Et puis finalement, le poteau rose a été découvert. C'était cet oiseau qu'on appelle l'indicateur, qui a la capacité, grâce à des enzymes qui lui sont spécifiques, de digérer la cire d'abeille précisément. Alors là, c'était quelque chose qui était un peu artificiel, enfin des conditions artificielles, mais dans la nature, l'indicateur est capable de travailler en symbiose avec une sorte de blaireau africain qu'on appelle le ratel. Et donc cet indicateur, qui n'a pas un bec assez fort pour creuser le bois à la recherche des gâteaux de cire des hyménoptères, fait appel au ratel. Le ratel est guidé, il faut rappeler que cet oiseau s'appelle honey guide en anglais, c'est-à-dire le guide à miel. Mm-hmm. Donc ce ratel est guidé vers le nid des hyménoptères. Avec ses griffes, il éventre le bois, il met à nu le gâteau de cire et l'indicateur n'a plus qu'à se servir.
Maxime Zucca, c'est de l'intelligence, ça, pour un ornithologue, pour un scientifique comme vous.
C'est toujours très difficile de distinguer ce qui est de l'inné, de l'instinctif et même de l'acquis observé par imitation, par répétition et de ce qui est vraiment du cognitif supérieur et donc de l'intelligence. Et on peut aussi rêver parfois qu'un comportement qu'on observe est intelligent et voilà, pas nécessairement s'arrêter. Mais sur les outils en particulier, tout de même, c'est quand même assez minoritaire chez les oiseaux, l'usage d'outils. Peut-être quelque chose qu'il faut quand même préciser. Il y a très peu d'espèces d'oiseaux qui utilisent des outils. Et même chez ces espèces-là, ce ne sont pas nécessairement tous les individus. C'est parfois juste certains individus qui développent la faculté d'utiliser des outils. Et par exemple, même en France, y compris en plein Paris, on a pu voir certains hérons, par exemple, s'entraîner à pêcher des poissons en utilisant des appâts avec du pain. Ils ont compris que les poissons venaient lorsqu'on distribuait du pain et maintenant ils pêchent en mettant eux-mêmes du pain et ça facilite la capture des poissons. Mais c'est certains individus, pas tous.
Et puis il y a d'autres oiseaux qui utilisent ce que vous appelez des outils passifs, qui utilisent des voitures ou des trains pour casser des noix par exemple.
Oui, alors vous avez le cas très connu maintenant des corneilles de Tokyo qui sont capables d'attendre que le feu passe au rouge, de déposer des noix sur la chaussée, le feu repasse au vert, les voitures écrasent les noix, et quand le feu suivant repasse au rouge, la corneille descend chercher les cerneaux de noix qui ont été ainsi rendus accessibles.
En Angleterre, les mésanges savent où trouver le lait. Écoutez ce son des années 70.
Dans l'adaptation des animaux au monde moderne, il y a des choses très étranges. Par exemple, Leal Watson raconte, dans son ouvrage si remarquable, qu'il y a une certaine mésange qui a appris à ouvrir les boîtes de lait. Et qui se nourrit maintenant de cette façon. Elle va chaparder dans le lait qu'on laisse
Ah, c'est merveilleux.
Qu'elle peut atteindre en ouvrant les couvercles. Et alors, le biologiste qui rapporte le fait raconte qu'il semble que petit à petit, son bec se modifie très légèrement et que probablement il se modifiera encore davantage. Il s'adapte et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
L'histoire est connue, Maxime Zucca, mais le bec, c'est moins certain.
L'histoire du bec est moyennement convaincante, je trouve. Par contre, l'histoire des mésanges qui apprennent à ouvrir le lait et surtout la rapidité avec laquelle ce phénomène s'est répandu à travers toute la Grande-Bretagne et après aussi en Scandinavie est assez fascinante. Et d'ailleurs, on suppose que c'est pas uniquement en observant d'autres mésanges que les mésanges ont appris ce phénomène, mais simplement aussi en voyant certaines bouteilles de lait percées qu'elles ont compris que d'autres pouvaient le faire, donc sans nécessairement avoir à observer une mésange dans l'acte et donc à déduire de ce qu'elle voyait, d'un trou dans une bouteille de lait, la possibilité de le faire elle-même. Et la rapidité de la diffusion de ce phénomène, peut-être au début un petit peu lent, mais à partir du moment où on a atteint un seuil de population, un palier de pourcentage d'oiseaux sachant faire ça, et la rapidité avec laquelle ça diffusait dans toute la population, et un modèle qui est utilisé un peu pour comparer avec le degré avec lequel nous, humains, par exemple, on peut aussi avoir un comportement nouveau, bénéfique, qui se diffuse dans la population. Par exemple, le fait de manger bio.
Mmh. Guillain Le Saffre, vous vous intéressez aux oiseaux depuis plus de 50 ans, on peut le dire.
Bientôt 50 ans.
Et vous avez un mantra.
Oui. Alors c'est grâce au bon père Hugo, comme on dit. C'est un poème que j'affectionne et qui résume tout. Le nid que l'oiseau bâtit si petit est une chose profonde. L'œuf ôté de la forêt manquerait à l'équilibre du monde.
Et à propos de nid, vous allez nous raconter l'histoire des oiseaux jardiniers.
Alors, il existe une petite vingtaine d'espèces d'oiseaux qu'on appelle des oiseaux jardiniers qui vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée. Et ce sont des oiseaux, ce sont des passereaux hein, qui ont la taille d'un merle à peu près. Et l'un d'eux est capable d'enduire le berceau, c'est-à-dire la structure de petites branchettes érigées verticalement pour faire une sorte de couloir. Et cette structure accueillera, ce couloir accueillera l'accouplement. Et pour rendre ce couloir attrayant, le mâle de jardinier va enduire les murs de la chambre nuptiale avec du charbon de bois, de la sève mélangée à de la salive. Bref, il refait une sorte de chaulage, si vous voulez. Et la femelle, on s'en est rendu compte, est capable de savoir si le mâle sait s'y prendre et surtout si le berceau est occupé depuis un certain temps. Si la peinture est sèche, ça veut dire que le mâle n'est plus là. Si la peinture est fraîche, ça veut dire que le propriétaire est là et que l'accouplement va pouvoir avoir lieu.
Qu'est-ce que c'est joli ! Est-ce que c'est beau à regarder ?
Je ne vais pas dire que nous sommes à la chapelle Sixtine, mais c'est surtout le fait qu'un animal soit capable, enfin qu'un oiseau en l'occurrence, soit capable d'utiliser des éléments de son environnement pour améliorer une structure artificielle qui retient l'attention.
Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le, sourire aux immortels, il a les yeux. Et le cœur qui s'éveille, et les œuvres qu'il dévale, se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse, que son cœur jaillisse des hordes, de confettis en désordre, qu'il enroule et l'entraîne. Clamer dans l'amertume sa soif de solitude, qu'il aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le sourire aux immortels, il a les yeux et le cœur qui s'éveille. Et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes, de confettis en désordre, qu'il enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle. Thank you.
C'était Voyou avec ce titre Carnaval.
Les aventuriers sur France Inter.
Les oiseaux ne sont pas des machines qui répètent quand vient la saison des migrations. Ils peuvent changer de route en fonction des expériences passées. Ils savent se diriger avec le champ magnétique, les étoiles et le soleil et sont capables d'aller à l'autre bout du monde. Maxime Zucca est un scientifique spécialiste des migrations.
Les oiseaux, pour se repérer sur leur territoire, ont besoin de connaître parfaitement les différents endroits où trouver la nourriture efficacement, où se trouve chaque arbre, chaque source d'alimentation. Et leur territoire fait régulièrement plusieurs hectares, donc peut-être assez grand. Et ça nécessite une capacité de mémorisation spatiale élevée. Et elle l'est d'autant plus qu'il y a certaines espèces qui vont cacher des aliments pour passer l'hiver. Les plus connus, ce sont les geais ou les corbeaux-freux, qui cachent des glands, qui cachent des noix. Et du coup, ils vont les disposer un petit peu partout. Parfois, ils ont plusieurs milliers de cachettes pour certains. Alors, ils vont en oublier, évidemment, mais ils vont retrouver la majorité d'entre elles, en général en utilisant des repères paysagers, un arbre, un rocher, etc.
Donc, ils ont la mémoire des lieux. Ils ont aussi la mémoire du goût, parce que vous m'avez expliqué qu'ils consomment les aliments avant que ceux-ci ne soient pourris.
Mémoire du goût ou en tout cas, mémoire temporelle et conception du temps qui passe, et notamment chez encore une autre espèce de geais, pour le coup américaine, chez qui il a été expérimenté différentes cachettes avec des vers qui périssent assez rapidement. Et en l'occurrence, c'était de l'ordre de 5 jours ou 6 jours avant qu'un vers devienne pourri. Et à 3 ou 4 heures près, les geais savaient si ça valait encore la peine d'aller chercher leur vers ou si c'était plus la peine parce que la date de péremption était dépassée. Donc, une ou deux heures près sur 125 heures, c'est une notion du temps qui passe qui est extrêmement précise et surtout une connaissance, un rappel de la durée de vie de cet aliment qui est assez fascinante.
Maxime Zucca, vous êtes un spécialiste des migrations, vous avez beaucoup étudié ce sujet et vous savez que les oiseaux savent exactement sur la route de leur migration où ils vont se poser pour se reposer.
La première année, ils ne le savent pas exactement. Par contre, les années suivantes, effectivement, ils vont encore une fois faire appel à leurs souvenirs des sites qu'ils ont choisis, sur lesquels ils se sont arrêtés l'année précédente et qui ont été les plus efficaces pour reconstituer leur réserve de graisse. Parce que les oiseaux, lorsqu'ils migrent, vont dépenser beaucoup, beaucoup de carburant, d'énergie en vol et donc vont devoir faire le plein lors de certaines haltes migratoires. Et il est important de choisir les meilleurs sites. Donc ces sites sont mémorisés l'année suivante. Et d'ailleurs, les oiseaux migrateurs ont une mémoire beaucoup plus longue que la plupart des oiseaux sédentaires, qui durent au moins un an.
Ils se dirigent comment, les oiseaux ?
Alors la première année, c'est particulier parce que la première année, beaucoup d'oiseaux migrent seuls et dépendent entièrement d'un programme génétique qui leur dicte globalement, migrent pendant 10 jours vers le sud-ouest et migrent pendant 15 jours vers le sud. Après cela dit, cette information dictée, il faut la comprendre et la transcrire en réel. Et donc là, ça nécessite de savoir où est le sud, de savoir où est le sud-ouest et donc de faire appel à l'environnement et notamment les étoiles, le soleil et le champ magnétique. Et c'est pas complètement inné. Notamment, les jeunes oiseaux doivent apprendre la position des étoiles dans le ciel lors de leur première journée de vie, leur première nuit, en l'occurrence, de vie. S'ils ne peuvent pas voir le ciel nocturne, ils ne sauront pas lire le ciel nocturne et ne sauront pas savoir où est le nord, où est le sud, etc.
Donc, ah, c'est incroyable,
il y a un vrai apprentissage.
Alors, on a retrouvé un son de 1961. C'est un chercheur qui s'appelait Ernest Baumgart et qui parle du sens d'orientation des oiseaux.
Les tourneaux en cage, qui ne peut suivre l'exemple de ses congénères libres, s'agitent au moment des migrations et cherchent à s'échapper vers le sud-ouest, direction normale de son voyage vers les pays chauds. Encore faut-il qu'il puisse voir le soleil ou une partie du ciel proche du soleil, car sans ce repère, son sens de la direction ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est génial parce que ces étourneaux, donc la première année, migrent effectivement, comme le dit le monsieur, vers le sud-ouest. Et Rodolphe Perdeck, un ornithologue néerlandais, les a étudiés en grande quantité aux Pays-Bas. Et savait que tous les étourneaux qui nichaient près de chez lui aux Pays-Bas allaient hiverner en Bretagne, en Normandie, un petit peu en Angleterre, parce qu'ils les baguaient. Et les étourneaux sont chassés, donc on avait beaucoup d'informations, de reprises de bagues à la chasse. Et il en a déplacé près de 6000 en Suisse. Il s'est amusé, il a pris l'avion, il a fait prendre l'avion à ses étourneaux, il les a relâchés en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on observe que les jeunes étourneaux, donc nés dans l'année, ont été retrouvés morts par des chasseurs, pour ceux qui ont été retrouvés évidemment, en Aquitaine. Donc ils avaient gardé l'axe de migration génétique. Ils étaient allés vers le sud-ouest, ils avaient migré à peu près sur 1000 km, comme les étourneaux des Pays-Bas. Par contre, les adultes, qui avaient le souvenir de leur zone d'hivernage de l'année précédente, avaient corrigé leur trajectoire, leur déviation, et étaient retournés hiverner en Normandie. Donc là, vous voyez, la première année, effectivement, les oiseaux sont un petit peu des petits robots parce qu'ils n'ont pas bien le choix, ils sont laissés seuls dans ce monde difficile, mais après, l'expérience prend le pas sur l'inné.
Donc, ils ont vraiment une mémoire des lieux.
Et font un choix, et le choix prend plus d'importance.
Et est-ce qu'on peut parler des pigeons voyageurs? Comment se dirigent ces pigeons?
Alors c'est vrai que les pigeons, qui sont très communs dans notre environnement, ont été aussi mis à profit pour envoyer des messages, ce qu'on appelle les pigeons voyageurs, et maintenant faire des courses. C'était effectivement les SMS de l'époque. Et les pigeons s'orientent dans leur navigue dans un environnement connu parce qu'ils se souviennent d'éléments du paysage. Ils ont une très très bonne carte mentale de l'espace autour de leur pigeonnier. On s'est également aperçu que lorsqu'on leur faisait faire régulièrement le même trajet, ils préféraient emprunter des repères paysagers linéaires tels que même des autoroutes maintenant. Donc ils ont la mémoire de ces repères. Mais il leur faut également utiliser en complément le soleil, la position du soleil. Si on empêche, si on prive les pigeons de la possibilité de voir le soleil, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à retrouver leur pigeonnier. De même que si on les prive d'odorat. A priori, il y a aussi quelque chose lié à l'odorat qu'on maîtrise encore mal. Et évidemment, si on fixe un aimant qui les prive de la possibilité de sentir le champ magnétique, c'est la même chose.
Écoutez ce propriétaire de pigeons enregistré en 1978.
Ils connaissent leur patron, ils connaissent leur soigneur, et ils connaissent surtout leur maison. Un pigeon aime beaucoup son colombier, et il y revient par principe, c'est sa première des qualités. Non seulement son colombier, mais sa case. Non seulement sa case, mais sa compagne. Non seulement sa compagne, ses œufs, ses petits, tout l'attire.
Il a le sens de la famille, là.
Ah, il a le sens de la famille. Il a aussi le sens de la propriété, parce que vous allez voir dans le colombier des cases qui se ressemblent et qui sont voisines. Si jamais un pigeon se trompe de case, il va être très mal reçu par le propriétaire. Si on n'arrive pas assez vite, ils se démolissent et démolissent pour longtemps, rien que par cet esprit de propriété.
Le pigeon a donc l'esprit de propriété, il connaît sa route et il n'est pas bête comme parfois on l'entend dire.
Encore une fois, c'est difficile. On a su apprendre, encore une fois, je crois, dans des expériences, les pigeons à lire des mots, reconnaître quels étaient des mots anglais et des mots qui étaient vraisemblablement pas syntaxiques d'un point de vue anglais, donc à reconnaître le TH ensemble, le EA ensemble. A priori, ils se servaient de ce genre d'association de lettres pour savoir qu'un mot était existant ou non. Donc clairement, les pigeons sont pas aussi stupides qu'on peut le penser après.
À propos d'immigration, j'ai cru comprendre que quand il y a un couple, chacun migre de son côté et se retrouve l'année suivante.
Alors ça dépend. C'est difficile à mettre en évidence parce qu'on ne peut pas suivre individuellement des oiseaux tout au long de leur migration, surtout les petits. On peut le faire avec des gros, mais on va pas équiper tous les oiseaux parce que c'est très cher. Mais effectivement, les oiseaux ont tendance à se retrouver, en tout cas sur leur site de nidification. Ils sont fidèles. Alors on peut y voir tout un tas. Est-ce que c'est simplement une signification biologique? Il est plus avantageux de se reproduire avec le même individu? Ou est-ce qu'il y a vraiment derrière des émotions? Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin de retrouver un partenaire? Et donc cette intelligence affective, émotionnelle qu'on peut imaginer? Moi j'ai tendance à penser que oui, parce que je me mets dans la place d'un chercheur non humain qui nous étudierait. On serait pour lui qu'hormones, que fonction, que volonté de se reproduire, besoin de se reproduire, et on a tendance, chercheur, à, en recherchant l'objectivité, à transcrire ce mode de pensée à notre étude des oiseaux. Et finalement, nous, effectivement, on est qu'hormones, mais ces hormones, elles signifient beaucoup en termes de ressenti et d'émotion. Et les oiseaux, on s'aperçoit, lorsqu'ils ont du plaisir, qu'ils dégagent des grandes quantités d'hormones très semblables à nos hormones du plaisir, qui est l'ocytocine. Eux, ils ont ce qu'on appelle la mésotocine, donc c'est quasiment la même chose. Et a priori, du coup, on peut imaginer que les émotions sont assez semblables aux nôtres, peut-être.
Et dans un instant, vous nous parlerez de l'empathie chez les oiseaux.
Avec plaisir.
Volontiers.
Your heart is on your sleeve. May you find the pretty things
Black Pumas, Old Man.
Les aventuriers sur France Inter.
Alex était un perroquet du Gabon qui connaissait 150 mots et pouvait répondre à des questions. Vous en entendrez un extrait dans un instant. On ne sait pas si les oiseaux ont une conscience de la mort, même s'il est très rare de retrouver leur corps. Guylain Le Saffre et Maxime Zucca rappellent que les oiseaux ont une conscience de soi, ils anticipent l'avenir, ils ont de la mémoire et de l'empathie.
Les grues cendrées sont des oiseaux qui migrent, ce sont même des emblèmes des oiseaux migrateurs. Elles marquent le retour des saisons et l'avancement du calendrier. Et un de mes amis observateurs a eu l'occasion une fois d'observer un groupe de grues en migration. Il faut savoir qu'elles migrent notamment en groupes familiaux. C'est-à-dire que dans un vol de grues, il y a plusieurs familles avec les deux adultes, les deux jeunes ou un seul jeune, et ça forme des bandes, si vous voulez. Et un des jeunes de cette troupe avait des difficultés à voler. Et il a été obligé de se poser. Et l'observateur a pu voir à ce moment-là que le reste de la famille a abandonné le groupe de migrateurs et est descendu se poser à côté de l'oiseau diminué. Donc, évidemment, il est tentant d'y voir de l'empathie. On n'a pas la réponse claire, si vous voulez. Mais ça fait partie de ces phénomènes qui nous amènent à nous interroger, en tout cas, sur cette empathie supposée.
Donc, ils ont apparemment le sens de la famille. Les corbeaux, quand ils ont participé à une bataille et que la bataille est terminée, ils se réconfortent.
Ils se font réconforter. C'est vrai que parfois, chez les oiseaux, il y a des combats à deux qui ne durent pas nécessairement longtemps. Mais on a observé plusieurs fois des corbeaux aller réconforter le perdant avec une sorte de baiser de corbeau, c'est-à-dire qu'il lui prend le bec, il lui pince le bec, il lui prend le bec dans son bec. Et d'autant plus que le perdant avait violemment perdu.
Je sais que les corbeaux, vous les aimez bien. Je vous propose un texte de Rimbaud qui s'appelle « Les corbeaux » et il est dit par Laurent Terzieff.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus les longs angélus se sont tus, sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux. Armées étranges, aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids.
Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes, aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, par milliers sur les champs de France, où dorment les morts d'avant-hier, tournoyez, n'est-ce pas l'hiver ?
Alors, armée étrange, ils sont souvent mal aimés, et c'est bien dommage.
Et effectivement, en fait, on parle beaucoup des corbeaux depuis tout à l'heure, c'est parce que ça fait partie des oiseaux chez lesquels on considère que l'intelligence est le plus développée. En tout cas, les comportements cognitifs sont très démonstratifs. On a évoqué un petit peu l'usage des outils tout à l'heure. On vient de parler de l'empathie. Les corbeaux sont même parfois capables de choses assez extraordinaires. Je vais y revenir juste après, mais c'est vrai que les corbeaux et les corneilles sont parmi les oiseaux les plus traqués en France. Ils sont détruits, on les considère comme des nuisibles. Maintenant, on a changé le terme, mais ils n'en demeurent pas moins piégés et détruits un petit peu partout. Et là, pour le coup, c'est nous qui manquons un petit peu d'empathie et de capacité d'observation. Et je pense qu'en observant davantage corneilles et corbeaux, on aurait beaucoup moins envie de les tuer, beaucoup plus envie de les observer, et même dans Paris, partout.
Alors, les observer, d'accord, mais qu'est-ce qu'on voit si on les observe bien ?
Eh bien, ça peut aller jusque... Là, vous pouvez faire des observations, y compris en pleine rue à Paris, c'est ça qui est facile, ou dans d'autres grandes villes de France. Les corneilles, c'est amusant, ont bénéficié d'un effet Vigipirate en 1995 lorsque les poubelles pleines ont été interdites et remplacées par des poubelles en plastique. Et du coup, se sont très vite habitués à aller faire des trous, aller chercher des aliments divers et variés dans les poubelles, y compris à percer des canettes.
Et que dire des gestes de tendresse, entre guillemets, au sein d'un couple de corneilles. Moi, j'ai passé des minutes d'observation à voir comment un mâle et une femelle pouvaient se caresser le bec, se lisser le plumage, fermer les yeux, se blottir l'un contre l'autre. C'est très troublant à observer.
On dit que les corvidés sont les oiseaux les plus intelligents. Est-ce qu'on met les perroquets dans les corvidés ?
Non, c'est une autre famille, les psittacidés. Mais les perroquets, effectivement, sont connus pour leur capacité de langage, notamment.
Il y a un perroquet très célèbre, c'est Alex, le perroquet du Gabon, qui a été le perroquet d'une chercheuse américaine, voilà, qui s'en est beaucoup occupée et qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les perroquets.
Alors, c'est Irène Pepperberg qui, en 1977, a eu l'idée, dans son laboratoire d'une université américaine, de voir un petit peu comment... Elle arrivait à percer les capacités cognitives d'un oiseau. Et pour ça, elle s'est servie du don d'imitation des perroquets. Elle a réussi à lui apprendre une centaine de mots et à étudier avec lui des notions tout à fait intéressantes, comme par exemple le fait de lui présenter deux objets différents, mais de la même couleur. Et quand elle lui posait la question « What's different ?», il répondait « Shape », la forme. Et quand elle lui posait la question « What's the same ?», il répondait « Color », la couleur. Donc, elle a fait faire des pas de géant à la connaissance du psychisme de ces oiseaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 40 ans, quand elle a commencé ses expériences, on jugeait qu'elle perdait son temps, qu'elle perdait l'argent du contribuable américain, puisqu'elle allait étudier un oiseau dont le cerveau avait la taille d'une noix.
Et on a retrouvé un son d'Irène Pepperberg avec son perroquet Alex.
Everybody, hi.
Hello.
Do you think you're famous?
Superstar.
Can you do a cat?
Meow.
Can you call the dog?
Come here. Come here.
How about a bird? Can you do a bird? Can you do an owl? How about a rooster? About happy birthday. Can you sing happy birthday? Again?
Alors on dirait un son synthétique, mais c'est le véritable son du perroquet.
Oui, tout à fait. Et Irène Pepperberg expliquait dans le compte-rendu de ses expériences que, par définition, un perroquet étant privé de lèvres, ne peut pas prononcer tous les phonèmes correctement, notamment le ba par exemple. Mais bon, on arrive quand même parfaitement à comprendre, et je crois que l'extrait qui vient d'être passé est extrêmement éloquent, c'est le cas de le dire.
C'est-à-dire que le perroquet répète, mais le perroquet comprend les questions et répond intelligemment.
C'est ça qui est absolument étonnant. Alors, il faut bien se dire que c'est une expérience qui a été menée sur des années et des années, avec énormément de répétitions pour arriver à un tel résultat. Mais je le répète, ça a été quelque chose d'extrêmement utile pour la compréhension de l'intelligence des oiseaux.
Maxime Zucca, comment est-ce qu'on les étudie, les oiseaux, en laboratoire et dans la nature?
C'est ça, les deux. Hein. En fait, la nature, l'observation dans la nature va faire naître des intuitions qui vont donner aux chercheurs des idées d'expérimentation. Mais en général, il faut, notamment sur les questions d'intelligence, essayer d'en passer par le laboratoire au maximum. Après, dans la nature, on observe des choses assez incroyables, mais il faut au moins pouvoir sinon individualiser les oiseaux, savoir que tel corbeau est un tel, parce que typiquement, on peut observer dans la nature les corbeaux en train de cacher leur noir, on en a parlé tout à l'heure, mais si on ne sait pas quel individu est qui, on passera à côté d'une information incroyable qui est qu'on s'est aperçu que les corbeaux, par exemple, cachaient leur noix, mais surveillaient aussi qu'ils n'étaient pas vus en train d'être cachés leur noix. Et si jamais ils étaient vus, alors là, du coup, ils revenaient après et déplaçaient la noix, etc. Ils pouvaient le faire jusqu'à 6 cages différentes. Donc,
Et des expériences ont été menées à ce sujet.
Oui, tout à fait.
Guillaume Le Saffre.
On met deux corneilles dans un local, on en laisse sortir une avec de la nourriture, qu'elle va s'empresser d'aller cacher. Mais par une petite lucarne, la deuxième corneille voit ce que fait la première. Mais la première sait que la deuxième la voit. Donc, elle cache sa nourriture, elle attend qu'on occulte la petite lucarne et qu'on fasse sortir la deuxième, et pendant ce laps de temps très court, elle enlève la nourriture de sa cachette, elle va vite la mettre ailleurs, et quand la numéro 2 arrive, la cache est vide.
Corneille, corbeau, grue, et si on parlait des pies? Vous avez eu une pie, Guillaume Le Saffre?
Oui, Fabienne, j'ai eu une pie que j'ai trouvée au marché aux oiseaux, j'étais adolescent, et j'ai été apitoyé par une nichée de pie toute jeune qui n'avait pas encore beaucoup de plumes. J'ai réuni mes économies, j'en ai acheté une et je l'ai ramenée, à la grande joie de mes parents d'ailleurs, dans l'appartement parisien. Je dois dire que pendant quelques semaines, j'ai vécu avec cette pie, allant de découverte en découverte. Elle était tout à fait intéressante. Et juste une petite anecdote, je préparais le matin avant de partir à l'école, je préparais des petits morceaux de beefsteak que je mettais sous un linge dans la cuisine. Et la pie avait fini par repérer ça, donc elle partait dans l'appartement. Je la poursuivais parce qu'elle n'avait pas le droit d'y aller à cause des fientes. Et pendant que j'essayais de la pourchasser, elle me repassait au-dessus en vol. Elle soulevait le linge, elle prenait vite un morceau et elle s'en allait par la fenêtre dans la cour.
On dit que les pies ont la conscience d'elles-mêmes.
Plusieurs expériences ont été menées pour essayer de voir quels oiseaux étaient capables d'avoir conscience de soi. Il y a notamment cette expérience de l'université Goethe à Francfort, où on met une pastille adhésive sur la tête d'une pie et on essaie de voir quelle est la réaction. C'est quelque chose, une expérience qui est connue chez les enfants, les jeunes enfants, et qui permet de voir justement si les jeunes enfants ont conscience de soi. Et 3 pies sur le lot qui a été testé n'ont eu de cesse que de se débarrasser de cette pastille, ce qui a amené les chercheurs qui avaient mis au point cette expérience à considérer qu'elles avaient conscience de soi, que ce qu'elles voyaient dans le miroir n'était pas une autre pie, mais bien elles-mêmes.
Est-ce qu'elles ont conscience de la mort? Est-ce que les oiseaux ont conscience de la mort, Maxime Zucca?
Les oiseaux ont vraisemblablement conscience de leur mort. Moi, je ne peux que l'imaginer. Après, c'est difficile à démontrer. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne les trouve quasiment jamais morts. Donc effectivement, lorsqu'ils sentent leur dernier moment arriver, ils vont se cacher.
Et où vont-ils?
Au fond des buissons, dans les couverts denses, aux mêmes endroits probablement que ceux dans lesquels ils vont aussi dormir parfois.
About it. this morning. Smile with the rising sun. Free little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying,
this is my message to you.
Really don't worry about a thing, worry about a thing, oh,
every little thing gonna be alright.
D'écouter ça, Three Little Birds avec Bob Marley.
Les Saventuriers sur France Inter.
Le cerveau des oiseaux, étonnamment, a été très peu étudié. On sait que les oiseaux ont une densité de neurones très élevée, surtout dans la partie frontale et particulièrement chez les oiseaux chanteurs et chez les perroquets. Un perroquet ou un corvidé a à peu près autant de neurones qu'un petit singe, soit 2 à 4 fois plus qu'un mammifère non primate de taille semblable.
Le cerveau des oiseaux, il a une caractéristique, une distinction déjà particulière par rapport au cerveau des mammifères, dont l'humain, c'est qu'il n'est pas plissé, il est lisse. Nous, on a notre cerveau complètement plissé, ce qui d'ailleurs multiplie les surfaces d'échange neuronal. Alors, il est assez petit, hein. Guillain, tout à l'heure, a cité le cerveau de la taille d'une noix pour un perroquet. C'est à peu près la même chose pour les corneilles. C'est l'élément limitant, quand même, la taille. Ça ne veut pas dire que les oiseaux soient bêtes, et notamment, ils ont clairement un centre de la cognitivité supérieure qui a été identifié, qui est différente chez les mammifères. Nous, c'est le néocortex. Chez les oiseaux, c'est ce qu'on appelle le pallium. Donc, c'est l'équivalent. Le pallium qui est divisé en plein de structures, notamment le nidopallium, etc. Et dans une zone particulière du pallium, où l'on a ce qu'on peut supposer être le siège de l'intelligence, parce que on constate des densités particulièrement élevées de neurones, qui vont varier d'une espèce à l'autre. On parlait du pigeon tout à l'heure. Le pigeon, il a plutôt de l'ordre de 60 000 neurones au millimètre carré, alors que le corbeau, ça va être 180 000 neurones au millimètre carré. Mais pour comparaison, l'homme, on n'en a que 100 000 au millimètre carré. Donc, petit cerveau, mais du coup, plus densément fourni en neurones. Alors, il a une autre caractéristique aussi intéressante, c'est la taille relative très importante du cervelet, qui est le centre de la motricité. Et vous savez que les oiseaux ont une précision incroyable. Le martinet, pour retrouver son nid à une vitesse de 160 à l'heure et arriver à rentrer dans un petit trou de 6 cm de diamètre, il lui faut des capacités de motricité incroyables. Et c'est notamment ce surdéveloppement du cervelet qui illustre ce développement.
Avant de parler du chant des oiseaux, j'aimerais que vous nous lisiez un texte, Guillain Le Saffre, un texte qui vous tient à cœur. Il est signé Balzac, c'est extrait des Paysans, il a été écrit en 1855 et c'est la première fois que l'on parle de l'intelligence des oiseaux dans un texte littéraire.
Quand tout à coup Blondet tressaillit et se penchant à l'oreille de la comtesse, « Entendez-vous ? » lui dit-il. « Quoi ? » Un bruit singulier. Voilà bien les gens littéraires et de cabinet qui ne savent rien de la campagne. C'est un pivert qui fait son trou. Je gage que vous ne savez même pas le trait le plus curieux de l'histoire de cet oiseau. Dès qu'il a donné un coup de bec, et il en donne des milliers pour creuser un chêne deux fois plus gros que votre corps, il va voir derrière s'il a percé l'arbre, et il y va à chaque instant. Ce bruit, chère institutrice d'histoire naturelle, n'est pas le bruit fait par un animal. Il y a je ne sais quoi d'intelligent qui annonce l'homme.
C'est très joli.
Oui, alors ça, c'est tout à l'honneur de Balzac d'avoir glissé dans un de ses romans cette remarque qui pourrait revenir à Buffon, si Buffon avait été capable de la faire.
On va maintenant parler du chant des oiseaux. Le chant des oiseaux a été pas mal étudié.
Oui, parce que c'est quand même un des aspects les plus attractifs de ces animaux. Alors, Quand on parle de chant des oiseaux, il faut opérer une distinction très schématique entre ceux qui sont des passereaux et ceux qui ne sont pas des passereaux. Il faut savoir que ceux qui ne sont pas des passereaux, mettons le cormoran, le héron, la poule d'eau ou la buse par exemple, n'apprennent pas leur chant. C'est-à-dire que c'est un chant qui est essentiellement inné. Alors que les passereaux, qui d'ailleurs en anglais s'appellent songbirds, hein, les oiseaux chanteurs, eux sont capables d'apprentissage du chant. Et c'est un apprentissage qui est plastique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer. Alors ça dépend des espèces, hein. Il y a des milliers d'espèces de passereaux, mais certaines d'entre elles, en tout cas, sont capables de peaufiner leur chant tout au long de leur vie, sachant que le début de leur vie est quelque chose d'important. C'est là aussi que vont se figer un petit peu les modèles en écoutant ce qui se fait déjà.
Alors ils apprennent de qui? Ils apprennent comment? Ce sont les parents qui apprennent aux petits?
Alors, pas forcément les parents directement, ça peut être le mâle lui-même. Hein. Il faut savoir que chez certaines espèces, la femelle chante aussi. Alors disons le mâle pour simplifier, ou ce qu'on appelle des tuteurs, c'est-à-dire que ça peut être des oiseaux de la même famille, de générations différentes. Mais en tout cas, c'est tout cet environnement sonore qui va amener le jeune oiseau à confectionner son propre langage chanté.
C'est vrai qu'il y a des accents chez les oiseaux?
Ah oui, ça on peut le... Alors il faut voyager un petit peu pour s'en rendre compte. D'ailleurs, les auditeurs peuvent aller sur des sites comme Xenocanto, par exemple, hein, qui permettent d'écouter très facilement de chez soi toutes sortes d'enregistrements d'oiseaux et ils se feront leur propre idée.
Est-il vrai que les oiseaux urbains, notamment, sont capables de copier des sons de la ville?
Alors, pas nécessairement que les oiseaux urbains, en fait. Il y a certains oiseaux imitateurs, c'est une petite part des oiseaux, des espèces. À Paris, dans les villes, c'est particulièrement les tourneaux. Mais si vous allez plus dans les milieux ruraux, ça va être les rousserolles verderolles ou les fauvettes à tête noire. Les rousserolles verderolles, c'est incroyable. Lorsqu'elles reviennent d'Afrique, c'est un florilège de chants africains.
C'est vrai.
Complètement dépaysant, de sons qu'on n'a jamais entendu. Alors parfois, on reconnaît des oiseaux de chez nous, des guépiers au milieu de la campagne du nord de la France. Ça fait toujours un drôle d'effet. Et là, clairement, ce sont des espèces qui sont capables tout au long de leur vie d'apprendre de nouveaux chants, de les intégrer à leur propre répertoire, et ce, d'ailleurs, dans un objectif de conquête de leur partenaire, puisque plus le chant est complexe chez ces espèces, plus, en général, la femelle, parce que c'est le mâle qui chante,
ouais,
est attirée.
C'est le mâle qui chante, et c'est le mâle qui lance des cris d'alerte quand il y a un danger.
Alors là, ce sont tous les individus, mâles, femelles, même les jeunes, et en particulier, les cris d'alerte vis-à-vis d'un prédateur sont importants. On pourrait penser que c'est toujours le même cri d'alerte, et en fait, comme chez les singes, hein, où ça a été très bien montré, les oiseaux également ont différents cris d'alarme pour différents prédateurs, jusqu'à une quinzaine pour certaines espèces. Un épervier va être signalé différemment qu'une buse, qu'un faucon ou qu'un animal au sol. Et en plus, également, il va y avoir des cris différents selon que la menace vient du ciel ou qu'elle vient du sol. Et ça s'observe très bien. On va voir les oiseaux réagir en levant tout de suite les yeux au ciel pour voir ce qui se passe tout en se cachant en réponse à un certain cri.
Guillaume Le Saffre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les oiseaux chantent le matin et le soir et rarement dans la journée?
Les oiseaux chantent et ça leur demande une dépense d'énergie énorme. Il suffit de regarder un rouge-gorge chanter, vous allez voir que tout son corps tressaute et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment épuisant. Et dans ces conditions, pourquoi s'époumoner lorsque les conditions ne sont pas idéales? Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du bruit dans la journée. Or, le matin et le soir, l'air est plutôt calme, les bruits sont plutôt rares et c'est là que le chant va avoir son meilleur rendement, si l'on peut dire.
Donc le mâle drague.
Ah, le mâle drague, absolument.
C'est ça. Et pour terminer, j'aimerais que vous nous disiez comment on sait que les oiseaux reconnaissent les visages.
Alors les oiseaux reconnaissent les visages. Déjà, ce qu'on a du mal à percevoir, c'est comment se reconnaissent-ils entre eux? Parce que pour nous, entre êtres humains, la différence des visages est évidente, mais reconnaître, nous, un rouge-gorge, un autre rouge-gorge, ils nous paraissent très semblables. Mais évidemment, pour eux-mêmes, les rouges-gorges savent se reconnaître entre eux. Alors, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'implantation des plumes? Est-ce que c'est la rétine? Bon, il y a tout un ensemble de choses.
Mais ils se reconnaissent.
Mais ils se reconnaissent entre eux. Et ils savent aussi, et ça, il y a pas mal d'éléments de preuve, reconnaître nos visages à nous, humains, individuellement, et ce, indépendamment de notre odeur, de nos vêtements. C'est-à-dire que toute chose cachée, même avec une odeur uniforme mise à des étudiants, pour le coup, qui étaient sur un campus aux États-Unis, à qui on demandait tous les jours d'aller déranger un nid d'oiseaux, des moqueurs. Eh bien, ces moqueurs, des jours suivants, n'alarmaient que sur ceux des étudiants qui étaient venus déranger leur nid et pas du tout sur les autres étudiants. Donc, ils reconnaissaient très bien individuellement les personnes et les corneilles. On a montré que non seulement elles les reconnaissaient de la même manière, mais qu'en plus, elles les mémorisaient, les visages humains, pendant 3 ans. Donc, elles peuvent être très rancunières, n'agresser jamais une corneille.
Merci à Djoubaka, le programmateur musical des Saventuriers, qui nous a offert ce petit voyage en Mongolie avec Senko Namchilak.
le dernier livre de Guylain Le Saffre, Chouettes et Hiboux, est paru chez Glénat. Et le dernier livre de Maxime Zucca, Écoute les oiseaux, est paru chez Albin Michel. Il s'agit d'une expérience immersive dans le monde des oiseaux. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission avec Emma Ferret et Fanny Leroy. Merci à Alexandre Chenet à la technique. L'intelligence des oiseaux est une émission que vous pouvez réécouter autant que vous le voulez ou podcaster sur le site de France Inter, comme toutes les émissions de cette série, les émissions passées et les émissions à venir. N'oubliez pas non plus la page des Saventuriers où vous trouverez entre autres des liens qui vous permettront d'aller plus loin. Samedi prochain, nous parlerons des mammifères avec une éthologue spécialiste des cétacés qui vous racontera comment elle est devenue, sans s'y attendre, baby-sitter pour petits dauphins. Très bonne semaine à tous, à l'écoute de France Inter.